Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous vous apprêtez à écouter l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel, présenté par Alain et Patrick en partenariat avec l'Observatoire astronomique d'Anian. Alors au départ, nous avions prévu un sujet sur l'exploration spatiale, mais au vu du nombre de questions concernant les demandes de renseignements sur les divers matériels astronomiques que l'on peut acheter pour Noël, nous avons décidé de finalement opter pour une émission de radio achat astronomique. C'est bien ça, Patrick ?
Oui, bonjour à tous, bonjour Alain. Oui, je me suis dit, Noël approche, il y a sûrement des retardataires, donc on va essayer de conseiller un petit peu, hein, de donner des tuyaux pour ceux qui veulent éventuellement acheter du matériel astro, soit pour eux, soit pour leurs compagnes, soit pour leurs enfants. Voilà, alors il y a plein de pièges. Il y a plein de choses, on va essayer d'éclaircir la question.
D'abord, merci déjà pour ce sujet. Alors, c'est très simple. Déjà, moi, je vais te poser une question toute bête. Patrick, j'ai mon enfant, là, il a envie d'un télescope. Est-ce que c'est déjà une bonne idée et qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller ?
Alors déjà, ça dépend de son âge. Hein, je pense qu'il ne faut pas offrir un télescope à un enfant trop jeune. Alors il n'y a pas vraiment de règles établies, parce qu'on peut avoir des enfants de 6 ans qui pourraient très bien se débrouiller, et puis des enfants de 10 ans, moins. Mais bon, en général, en dessous de 8-10 ans, moi, je trouve que c'est un peu tôt. Voilà. Sauf, évidemment, si le père ou la mère, ou un ami, ou le grand frère ou la grande sœur peuvent vraiment épauler. Dans ce cas-là, pourquoi pas ?
Voilà. Oui, alors je suis assez d'accord avec cette vision, effectivement. Alors ce qu'on peut rajouter aussi, il y a quand même une notion importante pour les enfants, notamment sur les télescopes, c'est la question de la maniabilité et de la transportabilité, parce que c'est vrai que c'est des instruments qui sont relativement lourds, et comme tu l'as dit, en dessous de 8-10 ans, il est quand même, on va dire, assez compliqué pour un enfant d'être complètement autonome sur ses observations. Il faudra de toute façon qu'il ait l'aide d'adulte pour l'installation et la mise en œuvre.
Oui, tout à fait. Et puis il y a un autre critère à prendre en compte aussi, c'est là où on habite. Quelqu'un qui habite en ville, ça va être beaucoup plus compliqué que quelqu'un qui habite à la campagne. À la campagne, on sort le télescope dans le jardin s'il n'y a pas trop de lumière. Et ça marche tout de suite. En ville, à part le planétaire et la Lune, il faut se déplacer automatiquement, obligatoirement, si on veut pouvoir observer quelque chose de valable. Voilà. Alors, je voudrais déjà dire quelque chose d'important. Quand on débute en astronomie, qu'on veut acheter un instrument, c'est qu'il ne faut absolument pas s'attendre à voir au télescope ce qu'on voit sur les magazines, sur Internet, à la télé, c'est-à-dire des belles images pleines de couleurs, totalement contrastées. Au télescope, on ne voit pas ça. Déjà, on ne voit pas les couleurs. Alors ça, c'est propre à notre vision. D'ailleurs, tu peux l'expliquer parce que tu maîtrises bien le sujet.
Oui, alors pour faire rapide, l'œil est formé de deux types de cellules. Vous avez les cônes qui sont au centre de la rétine et qui, eux, voient en couleur. Par contre, il faut beaucoup de lumière pour voir en couleur. Ce sont des cellules, sensibles à la lumière, mais finalement assez peu. Et puis, vous avez tout le reste de la rétine, donc 80% de la surface, qui, elle, voit en noir et blanc et qui sont extrêmement sensibles à la lumière. C'est à peu près 10 fois plus sensible à la lumière que les cônes.
Voilà.
Voilà pourquoi on a cette sensation de voir, d'ailleurs, ne serait-ce qu'en pleine nuit, même sans instrument, on dit d'ailleurs que la nuit, tous les chats sont gris, pour cette raison.
Oui, donc du coup, vous attendez pas. Dans un télescope, on voit plutôt un niveau de gris. Voilà. Alors, dans des très gros télescopes, il commence à y avoir effectivement des nuances de couleurs, mais ça, c'est vraiment, il faut du diamètre. Voilà. Oui, tu voulais ajouter ?
Oui, alors je vais peut-être lancer un sujet, entre guillemets. J'ai vu, et on a eu des demandes par rapport à des demandes de renseignements sur ce type de télescope. Alors cette année, en tout cas, je n'ai pas vu ça les années précédentes, mais je l'ai vu régulièrement cette année. C'est ce que j'appelle des télescopes jouets, mais alors vraiment au sens propre du terme. Alors, il y en a, c'est vraiment télescope joué, c'est-à-dire que il y a quasiment pas de lentilles. Et il y en a certains, maintenant, de plus en plus, ce sont des télescopes dans lesquels on ne regarde pas à travers. C'est-à-dire que vous avez vraiment une petite lentille, assez petite, devant. Et à l'arrière, vous avez tout simplement un petit écran qui vous permet d'observer, de voir ce que voit le télescope. Alors, je suis, ma part, assez dubitatif. On a eu ça en stage, d'ailleurs. Mmh. C'est extrêmement limité parce que, bon, au final, on ne voit que la Lune. Hein, même les planètes, c'est inexploitable. Donc voilà, éviter à tout prix hein, ce genre de... de télescope. Et alors c'est surtout que en plus là je pense qu'on est limite hein, dans la publicité mensongère.
Ouais, le gadget.
Là on nous disait qu'on pouvait voir jusqu'à 20 000 objets célestes avec. Alors je crois que même avec nos télescopes on y arrivera difficilement. Donc.
Oui. Ouais. Oui. Puis alors le coup des écrans, je sais que maintenant on est dans un monde d'écran, mais si on peut à un moment donné s'échapper et utiliser un télescope pour regarder vraiment à l'oculaire. Profitons-en aussi, voilà, un petit moment sans écran, en pleine nature, dans la nature ou sur sa terrasse, mais vraiment l'œil, l'instrument et le ciel, voilà. Ouais. Bon, alors, on pourrait peut-être quand même donner déjà des choses de base pour le choix d'un télescope.
Voilà, alors, j'allais te dire, si par exemple je veux choisir un télescope, alors déjà, moi j'ai une question, plutôt lunettes ou plutôt télescope ?
Alors, c'est plutôt moi, plutôt télescope dans mon cas, parce que il n'y a pas que le télescope, il n'y a pas que l'instrument. Souvent, une lunette va être associée à une monture, télescope va être associé à une monture aussi, mais pour un télescope, on va avoir deux types de montures. Sur une lunette, souvent, on aura un espèce de trépied, alors en équatorial ou en altazimutal, un trépied photo donc, hein, l'équivalent. Alors qu'un petit télescope, ou gros, on va avoir deux types de montures. Aussi une monture équatoriale, et on aura ce qu'on appelle une monture type Dobson. Alors moi, je privilégie un peu les montures type Dobson, parce que ce sont des montures rudimentaires, mais qui sont très stables et faciles d'utilisation, même pour des petits instruments. Alors que la plupart du temps, les petits instruments équipés de montures équatoriales ou montures type trépied, ben, voilà, la mécanique n'est pas très stable, ça bouge dans tous les sens. Et ce qu'on demande avant tout pour faire de belles observations, c'est de la stabilité. Il faut que l'instrument soit très stable. On le voit très bien déjà avec une paire de jumelles, hein, avec lesquelles on peut déjà faire des belles observations. Hein, on le fait, nous, régulièrement. Mais la difficulté des jumelles, ben, c'est on tremble, ça grossit un peu, on bouge. Donc, c'est ça qui fait qu'on ne voit pas bien. Alors imaginez une petite lunette qui grossit encore plus que des jumelles, avec un trépied qui vibre, qui n'est pas stable, ben du coup vous ne pouvez pas observer. Ça ne marche pas. Donc moi, plutôt télescope monture Dobson, on pourrait imaginer une lunette Dobson, mais ça ne marcherait pas parce qu'on se retrouverait avec l'oculaire beaucoup trop bas au niveau du sol.
Oui, alors ça c'est un point, j'ai un petit peu enfoncé le clou hein, sur cette notion de monture, mais alors nous on le voit dans les stages d'initiation qu'on fait à l'observatoire, il y a énormément de personnes qui viennent avec des télescopes entre guillemets premier prix, avec effectivement des montures équatoriales rudimentaires, hein, et souvent l'optique est très bonne, l'optique permet vraiment de faire des observations. Par contre, la mécanique de la monture est de tellement mauvaise qualité qu'on a très souvent des instruments qui sont inexploitables à cause de ce point-là. Oui. Donc c'est vrai que là, pour les télescopes, effectivement, le Dobson est vraiment la monture à privilégier. Après, je dirais que la lunette, pour moi, c'est vrai que c'est un bon instrument pour débuter. Et pour moi, ça peut être un bon instrument à condition d'avoir une monture, ben peut-être déjà d'un peu de meilleure qualité, dans le sens de la transportabilité. C'est vrai que ça peut se transporter plus facilement qu'un télescope, parce que c'est vrai qu'un télescope va vite devenir encombrant.
Oui. Et puis alors l'autre avantage, c'est vrai quand même, de la lunette, c'est qu'on peut faire de l'observation terrestre.
Oui.
Avec une lunette, oui. Voilà. Donc ça peut être très, très intéressant pour des enfants. Mais voilà, du coup, ça demande un minimum de budget pour avoir une lunette relativement stable.
Alors ben justement, quel budget, à quoi on peut s'attendre pour investir dans du matériel astronomique ?
Voilà, alors du coup, avant de donner des fourchettes de prix, il faut parler quand même de deux choses importantes, c'est le choix de son instrument par rapport du coup au diamètre et de la focale. Alors, pour bien comprendre, un télescope, le moteur d'un télescope, c'est son miroir ou sa lentille. C'est ça qui récupère la lumière et qui fait qu'on va voir des choses. Il faut bien comprendre que plus la lentille ou plus le miroir est grand, c'est comme un entonnoir, hein, en fait, mais vous allez récupérer beaucoup de lumière. Donc, voilà, c'est un peu la course, hein, c'est la course au grand diamètre. Donc ça, c'est hyper important. Maintenant, ça va être votre budget qui va déterminer la limite, parce que ben, plus le diamètre est grand, plus ça va coûter cher.
Oui, alors je rajouterai une deuxième limite.
Oui.
D'ailleurs, certains adhérents de l'association l'ont eu, celle-là. C'est là encore la transportabilité. C'est vrai que
oui.
Avoir un télescope de 300 ou 400 mm, c'est l'idéal pour observer. Le problème, c'est que s'il ne rentre pas dans la voiture...
Il faut changer de voiture.
Ça devient plus compliqué.
Voilà, ou avoir une bonne brouette. Mais non. Alors du coup, des diamètres classiques, standards. Hein, pour une lunette, c'est 70, 90. Hein, c'est déjà pas mal pour une lunette. Et puis pour un télescope, hein, donc que ça soit Newton, monture équatoriale ou Dobson, voilà, 130, c'est déjà pas mal. On commence à s'amuser avec 130, 150, c'est déjà bien. 200 mm, pour moi, c'est vraiment l'idéal. C'est le bon compromis entre transportabilité et puis vision des objets dans le ciel. Hein. Pour donner un ordre d'idée, j'estime qu'à partir de 200 mm, on commence à résoudre les tâches en objets. Avant, à part les objets très étendus, ben, les objets restent des petites tâches, en fait. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein, mais bon. Et à partir de 200, ben, par exemple, les amas d'étoiles sont résolus en étoiles, alors que sinon, on reste sur des tâches. Donc, ça, c'est des choses à savoir.
Oui, alors, c'est surtout pour les amas globulaires, parce que les amas ouverts, c'est vrai que même dans des lunettes, on...
Oui, ça marche. Hein, le bon exemple qu'on a en ce moment, d'ailleurs, l'amas des Pléiades, hein, notamment, voilà. Ça, dans une petite lunette, c'est absolument magnifique. Voilà. Donc, ce choix, ben, voilà, c'est votre budget. Mais pour donner un ordre de grandeur, une lunette de 70, alors 70, c'est le diamètre, 700, c'est la focale. Donc, ça correspond un peu, hein, pour faire simple, à la longueur du tube. Hein, c'est là où se formera le point focal. Ben, on est entre 100 et 200 euros. Voilà, alors, évitez d'acheter une lunette qui vaut 40 euros, pour moi, c'est... C'est vraiment, on est dans le jouet, quoi, là.
Hein. Voilà,
il vaut mieux aller dans l'occasion, dans le marché de l'occasion, acheter une lunette de 100 ou 200 euros d'occasion, plutôt qu'un truc de base neuf, parce que ça sera inutilisable. Et dans du télescope, bah, ça dépendra du diamètre. Un télescope, un petit Dobson, hein, de 130 le diamètre, 650 de focale, on est à un peu plus de 300 euros. Alors, on en a un à l'observatoire, nous, hein, le petit, là, je ne sais plus ce que... On ne va pas citer de marque, mais bon, il est vraiment très, très bien. Il fait tout petit, comme ça. Mmh. En plus, il est rétractable, donc il est encore assez compact. Et ça, on fait de très, très belles observations. C'est très lumineux. C'est un télescope qui marche très, très bien. Et bon, n'importe qui peut l'utiliser. C'est très ludique. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien. On le manie vraiment. C'est pas fragile. C'est un télescope, pour moi, qui est vraiment idéal pour débuter.
Voilà, oui. Ça, je le conseille, effectivement. Oui. Surtout qu'en plus, il existe maintenant en 130 et en 150.
Oui, oui.
Donc, 150, 750.
Oui.
Et c'est vrai que c'est un très bon...
Un bon choix, je pense, pour débuter.
Alors, je te laisse continuer sur les fourchettes de prix. Après, j'ajouterai un point.
Voilà, bon, ça va aller vite, hein, parce que de toute façon, après, on va vite partir dans des choses qui deviennent limite raisonnables pour un cadeau de Noël. Donc, Dobson 200, hein, 200 mm de diamètre pour 1200 de focale, on est quand même à 500, 600 euros. Donc, ça commence à monter un peu. Et si on veut encore plus gros, hein, diamètre 300, 1500, donc 300 toujours pour le diamètre et 1500 pour la focale, ben on est facilement à 1200 euros pour un tube plein. Et si on veut un tube rétractable, parce que ça existe maintenant, vous avez des tubes qui se replient, et du coup ils sont quand même beaucoup moins encombrants, mais on est tout de suite entre 1200 et 2000 euros. Vous voyez, ça va très très vite. Alors je rajoute juste un truc avant de te laisser la parole. En gros, pour moi, monture équatoriale, photo, si on fait que du visuel, on part sur monture altazimutale, donc Dobson.
Oui, moi je suis assez d'accord là-dessus. Alors, je vais rajouter un point, c'est, tu l'as évoqué tout à l'heure, l'électronique.
Oui.
Alors, effectivement, sur les instruments, maintenant, on a beaucoup d'instruments, par exemple, où ils vous disent des go-to, c'est-à-dire là, télescope motorisé entièrement, hein, c'est-à-dire que là, le télescope se déplace automatiquement sur un objet. Alors, c'est vrai que c'est très appréciable, même en Dobson, hein, c'est vrai que le pointage est appréciable. Par contre, n'oubliez pas que du coup, à prix équivalent, vous aurez un miroir qui sera beaucoup plus petit. Alors, j'ai regardé, hein, vous avez un miroir deux fois plus petit. Et un miroir deux fois plus petit à budget égal, ça veut dire quatre fois moins de lumière dans votre instrument. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'instrument, l'électronique, ne viendra pas remplacer la taille du miroir, hein, en tout cas pour des observations à l'œil. Hein. Donc si vous avez, si vous voulez observer avec, en visuel avec votre œil, il vous faut privilégier le diamètre plutôt que l'électronique.
Tout à fait.
Après, c'est vrai que si vous faites de la photo, mais ça c'est vraiment un autre domaine, ça peut se discuter.
Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord sur ce principe.
Alors, tu as parlé d'un instrument que moi, personnellement, j'aime beaucoup.
Ah oui.
Ce sont les jumelles.
Exactement, les jumelles, ouais. Ouais. Alors, oui, contrairement à ce qu'on peut penser, les jumelles sont enfin, c'est un instrument qui est vraiment, vraiment très agréable et qui offre de très, très belles observations. Alors, c'est du grand champ, hein, c'est-à-dire des objets assez étendus, mais franchement, il y a de quoi faire. Alors, le problème des jumelles, ben, il faut un minimum quand même, des jumelles qui marchent bien, et il faut surtout réussir à se stabiliser. Voilà.
Oui, alors l'idéal, hein, de toute façon, les jumelles, et je crois que n'importe quel instrument d'observation, il faut que ce soit stable.
Voilà.
Et alors les jumelles, pour observer hein, quand même beaucoup aux jumelles, je dirais que l'idéal, hein, c'est évidemment le pied photographique. Alors vous avez maintenant des équerres hein, qui permettent de fixer des jumelles sur des pieds photos, donc ça c'est vraiment l'idéal. Et j'aurais tendance à dire que si vous n'avez pas de trépied photo pour des jumelles, vous avez sans doute ça dans votre buanderie, c'est tout simplement le manche à balai. Hein.
Oui.
Vous posez vos jumelles sur un manche à balai. L'avantage, c'est que le poids va reposer
sur le
manche, ou même un bâton, hein. Vous êtes en nature. Vous prenez un bâton, tout simplement.
Voilà.
Et du coup, vous n'avez plus à tenir le poids des jumelles et vous n'avez qu'à les guider.
Mmh.
Et ça, c'est ce qui va faire que vous serez stable dans vos observations.
Tout à fait.
Voilà. Après, pour les jumelles, alors c'est vrai que là encore, il y a beaucoup de modèles. Mais je dirais déjà des 10 par 50, hein, c'est ce qu'on appelle vulgairement les jumelles de randonnée. Ça permet déjà de faire de belles observations. Et on est alors là, l'étendue hein, du budget est très vaste. J'ai envie de dire que ça va de quelques dizaines d'euros jusqu'à une centaine d'euros. Optez plutôt pour la centaine d'euros plutôt que la dizaine d'euros, parce que là encore on va se retrouver sinon avec des instruments qui vont être assez peu stables, ouais. Fragiles. Voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a des jumelles hein, qui sont vraiment à vocation astronomique. On peut citer par exemple des 20 par 80 qui sont vraiment excellentes.
On en a tous les deux, hein, voilà. Et on est très contents avec ça. Et le budget, je crois qu'on est à 200 maximum. Hein,
180. Voilà, c'est 150 euros, entre 150 et 200 euros actuellement.
Et moi, je les avais trouvés même d'occasion à 90 euros. Donc vous voyez, faut le préciser, hein, dans le marché de l'occasion en astronomie, il y a vraiment, vraiment de bonnes affaires.
Oui, oui, c'est vrai. Oui.
À faire. Alors, c'est vrai que ça demande de s'y connaître un peu, mais il n'y a pas trop d'arnaques quand même, parce que souvent, le coup classique, c'est voilà, des personnes achètent des télescopes et finalement, ils n'arrivent pas vraiment à l'utiliser. Ça reste dans le placard et puis un jour, ils le revendent. Donc, du coup, il y a vraiment de bonnes affaires.
Alors, si vous nous rejoignez actuellement sur les ondes de Radio Pays d'Hérault, eh bien, vous êtes bien sur l'Astromag, le rendez-vous astronomique mensuel présenté par Alain et Patrick en partenariat avec l'Observatoire astronomique d'Aniane. Et non, vous n'êtes pas sur Radio Achat, même si c'est un petit peu le cas.
Alors, je tiens à préciser que nous ne vendons rien, nous, à l'Observatoire. Hein. C'est juste des conseils. On n'a pas d'action avec aucun magasin d'astronomie. C'est juste vraiment quelques conseils qu'on souhaite donner, parce qu'on voit vraiment passer trop de personnes qui achètent du matériel mais qui finalement ne l'utilisent pas.
Voilà, oui, exactement. Est-ce que tu veux rajouter certains points sur sur cette partie on va dire purement observation, achat?
Non, je pense qu'on a fait... Alors, on peut en parler pendant des heures, hein, mais il faut quand même ingurgiter toutes ces infos et voilà, quoi. Où aller, vers où se tourner pour.
Voilà, alors je vais peut-être rajouter aussi un point. On a le cas maintenant dans l'association. Il existe maintenant effectivement de nombreux télescopes qui là sont entièrement numériques.
Ah oui, oui.
C'est-à-dire que vous ne mettez pas l'œil à l'oculaire. C'est un télescope qui est associé à un capteur photo numérique et vous observez de manière numérique. Alors, la grande majorité hein, des instruments de ce type-là, c'est bah, vous observez avec votre smartphone,
ou, ouais,
tablette, etc. Alors, bon, là, on est quand même dans des budgets qui sont bien supérieurs. Alors, est-ce que tu veux donner, on peut donner quand même un ordre de grandeur ?
De prix ?
Ou de prix,
ah
oui.
Ah oui, je crois qu'on est autour des 3 000 euros dans
voilà,
ces zones-là.
Voilà, entre 3 000 et 5 000 euros.
Bah après, on est quand même dans du matériel, on va dire, presque un peu haut de gamme dans
voilà.
Cette catégorie-là. Je veux dire, c'est vraiment, c'est un choix. Je veux dire, là, on ne peut pas dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On est vraiment sur du matériel un peu spécifique. Voilà, c'est... Nous, on a quelqu'un qui a ça dans l'association. Et bon, il en est vraiment content. Hein. Ça marche très, très bien. Faut avoir, c'est ça, c'est un choix à faire. Bon, et puis, il faut le budget quand même. Mais bon.
Voilà, il faut un budget. Mais voilà, sachez que ça existe aussi. C'est vrai que ça a tendance à se démocratiser.
Ouais,
hein. On voit ça de plus en plus maintenant. Bon, par contre, voilà, ce sont des télescopes, on va dire, haut de gamme,
oui.
Mais qui restent quand même de très bonnes factures. Hein. Je veux
ah,
dire,
oui.
c'est très fiable, ça fonctionne. Il ne faut pas avoir de crainte
ouais.
là-dessus. Je sais que j'ai eu une question là-dessus où on me demandait si c'était fiable ou pas.
Bah, c'est fiable, c'est facile à mettre en œuvre.
Voilà.
C'est vrai,
hein,
on le voit.
Oui.
Hein, c'est très facile à mettre en œuvre et c'est assez compact finalement aussi. Voilà.
C'est compact. Mmh. Alors je dirais que c'est par contre pour moi un très bon allié, hein, l'outil numérique, quand on fait face à des problèmes de vision, notamment quand on a la vue qui baisse
oui.
ou des choses comme ça.
Oui.
C'est vrai que nous on le voit hein, aussi sur le plateau d'observation. Ça reste très complémentaire à l'observation visuelle. Ça permet de voir, bah, entre guillemets, l'invisible, j'ai envie de dire.
Oui, bah, ce qu'on fait souvent, nous, c'est que moi, je sors bah, évidemment le Dobson 500. Alors, c'est 500 mm de diamètre. Donc, on voit très bien, mais quand même pas les couleurs. Donc, on observe un objet. Et puis, bah, y a la personne qui a ce télescope numérique à côté qui le fait en parallèle. Et du coup, bah, les personnes passent de l'un à l'autre. Ils le voient donc avec une très bonne résolution sur le gros télescope. Et puis après, juste à côté, ils vont se dire, ah ben, effectivement, avec un léger temps de pause, hein, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, ces télescopes numériques, eh ben, ils ont accès aux couleurs, tout de suite. Donc c'est très complémentaire, par contre, dans ce cas-là.
Ok. Alors, du coup, on va peut-être passer... là, on a parlé des instruments, etc. Mais finalement, il faudrait peut-être qu'on parle un petit peu de ce qu'on peut voir dans ce type d'instrument.
Oui, c'est vrai. Oui, oui.
Voilà. Alors, je vais peut-être m'occuper de cette partie-là, hein,
oui.
Entre guillemets, d'éphémérides astronomiques. Alors, on va déjà commencer avec la pleine lune, qui se produira la fin décembre. Ça sera le 27. Alors, ça va du coup... Cette dernière partie de décembre hein, va être, on va dire, pas la meilleure période hein, pour les observations célestes. La nouvelle lune, elle aura lieu le 11 janvier. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a actuellement le triangle d'été qui plonge derrière l'horizon ouest en première partie de nuit. Et oui, nous nous enfonçons lentement mais sûrement dans l'hiver.
Oui, c'est ça. Oui.
D'ailleurs, à ce propos, le 22 décembre, ce sera le solstice d'hiver.
Oui.
À 3h27 du matin, du moins une heure de plus, à 4h27 en heure française. Alors, dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a à voir ? Eh bien, il y a à voir des planètes. Il y a notamment Vénus hein, que vous pouvez sans doute voir le matin. Elle se lève 3 heures avant le soleil actuellement et elle sera visible eh bien, dans cette dernière partie de nuit. Alors profitez-en parce que même si elle va rejoindre le soleil, donc passer à côté du soleil seulement au mois de juin, eh bien, il se trouve quand même qu'elle va vite décliner. Et on va dire que le mois de janvier va être, en gros, hein, la dernière période propice à son observation, dans de bonnes conditions. Hein, on pourra toujours, ceci dit, la repérer. Alors, vous pourrez faire une jolie observation, alors, notamment avec des jumelles hein, dont on a parlé tout à l'heure. Ce sera le 8 janvier, puisqu'elle sera accompagnée d'un fin croissant lunaire et de la brillante étoile Antares dans le Scorpion.
Ah oui, il revient nous rendre visite, ce scorpion.
Eh oui, voilà. Et le lendemain, donc le 9 janvier, ce sera une occasion de repérer la planète Mercure, puisqu'elle sera accompagnée d'un très fin croissant lunaire. Et là, par contre, il faudra un horizon sud-est qui soit le plus dégagé possible et le plus limpide possible. Donc si vous avez ne serait-ce que des nuages à l'horizon, hein, ça ne sera pas possible. Mais voilà, c'est un moyen, hein, cette lune qui passe dire bonjour à chacune des planètes dans sa ronde céleste, c'est un moyen aussi de repérer par exemple des planètes comme Mercure qui sont difficilement repérables. C'est toujours un bon allié. Quant à Jupiter, elle, elle est visible toute la nuit, hein, quasiment.
C'est la reine de la nuit en ce moment.
Voilà, donc sachez que vous pouvez l'observer évidemment dans des télescopes, mais même dans des jumelles, vous pouvez voir le balai de ses satellites. Hein, c'est extrêmement joli à observer de jour en jour. Et c'est là aussi où je pense que les jumelles sont un très bon allié, parce que ça permet simplement de les sortir rapidement. Regardez par la fenêtre, on voit la position des satellites de Jupiter, on observe quelques minutes ou à peine. Et si vous faites ça tous les jours, vous voyez cette danse magnifique des satellites de Jupiter. Et le 21 et 22 décembre, elle sera accompagnée, là par contre, par une grosse lune gibbeuse, hein, puisqu'on s'approche de la pleine lune. Donc, là aussi, c'est un joli tableau céleste. Pour Saturne, par contre, les choses se compliquent drastiquement. Elle va vite péricliter et tomber derrière l'horizon. Et c'est vrai qu'on est un peu dans les dernières parties, hein, les dernières périodes d'observation, en toute première partie de nuit d'ailleurs. Mmh. Et elle sera d'ailleurs accompagnée le 17 janvier et le 14 janvier au soir, par le dernier croissant lunaire. Là aussi, ce sont de très belles observations.
Oui, on a tout janvier quand même encore pour Saturne, si on commence tôt.
Voilà, si on commence tôt, c'est...
Pour ceux qui auront acheté un télescope...
Voilà. Par contre, n'oubliez pas qu'à partir du 22 décembre, les jours vont de nouveau commencer à rallonger.
Oui, alors tranquille. Hein.
Oui, c'est ça. Et donc, en même temps que le solstice d'hiver, dans la nuit du 22, on aura le maximum des Ursides, un essaim d'étoiles filantes. Alors c'est un essaim d'étoiles filantes qui est assez intéressant, puisque normalement, hein, les essaims d'étoiles filantes se voient plutôt en dernière partie de nuit. Pourquoi ? Parce que quand la Terre va croiser des étoiles, des débris, hein, laissés par les comètes, elles vont rentrer dans l'atmosphère par le pare-brise avant, exactement comme les moustiques qui s'écrasent sur le pare-brise de votre voiture.
Oui.
Et donc on les voit forcément en dernière partie de nuit. Les Ursides, elles tiennent leur nom des ours, hein, célestes. Et donc comme elles sont circumpolaires, elles se voient quasiment toute la nuit.
Donc le radiant vient de la Grande Ourse ?
Voilà, c'est ça, vient de cette zone-là du ciel. Et on peut s'attendre cette année à un sursaut de cet essaim d'étoiles filantes à jusqu'à à peu près une cinquantaine d'étoiles filantes par heure.
C'est pas mal.
Ce qui reste pas mal, c'est à peu près du niveau des perséides estivales actuellement. Par contre, il y aura une grosse lune. Et donc, ce ne sera pas quand même les conditions idéales pour l'observation de ces essaims d'étoiles filantes. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les observations qu'on peut faire.
Alors, je veux rajouter, donc, dans des objets remarquables qu'on peut commencer à faire, justement, si on débute, on a l'amas des Pléiades, qui se trouve dans le Taureau. Constellation du Taureau, qui se voit à l'œil nu. Hein. On l'appelle les sept sœurs aussi. Ça fait vraiment, ça ressemble à une toute petite casserole, en fait. Très, très serrée, très petite. Alors, on vous conseille, hein, d'ailleurs, pour toutes les observations, d'utiliser la technique de la vision décalée, même à l'œil nu. Vous regardez pas, vous ne fixez pas l'objet directement, mais légèrement à côté. Ça vous permettra de mieux le voir et surtout de mieux le résoudre. Et puis, on a aussi, à l'opposé du triangle de l'été qui disparaît sur l'horizon ouest, on a donc la constellation d'Orion qui vient maintenant assez vite dans le ciel, à l'opposé, donc côté horizon est, et qui monte assez rapidement dans le ciel. Très belle constellation dans laquelle on retrouve la fameuse nébuleuse d'Orion qui se voit déjà avec une paire de jumelles.
Voilà.
Donc, une très bonne cible d'hiver.
Voilà, alors pour terminer, on pourrait rajouter aussi le double amas de Persée et la galaxie d'Andromède qui sont au perché là.
En ce moment, oui. Ouais. Alors avec les jumelles, du coup, il faut faire gaffe aux cervicales quand même.
Voilà, oui, effectivement. Alors, cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir écouté l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs. On se retrouvera du coup le lundi 15 janvier pour un sujet mystère, puisque nous n'avons pas encore décidé de qui interviendrait pendant cette émission. Voilà. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Oui. Et Patrick, je te laisse le mot de la fin.
Eh ben, je vous souhaite aussi de passer de très bonnes fêtes. Voilà, un très joyeux Noël. Et puis, bons achats astronomiques pour ceux qui ont décidé de le faire ou qui ne l'ont pas encore fait. Voilà, merci à tous.